Un petit mot.
Mais oui, après, c'est vrai que c'est une question de curseur. Je pense que pendant longtemps, on était centré sur les besoins de l'entreprise et le salarié s'adaptait beaucoup. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, il y a eu une sorte d'effet de balancier où le salarié n'est centré que sur lui, que sur ses besoins, que sur il faut que j'aille chercher mes filles à l'école à telle heure, etc. Or, moi, par exemple, quand j'engage quelqu'un pendant les vendanges, mais ça m'arrive hein, parfois, des gens qui me disent ah bah oui, mais alors moi, les vendanges, je voudrais pas qu'on les fasse en septembre. Bah, comment te dire ça va être dur parce que la nature fait que c'est. Non, mais voilà. Et aujourd'hui, on a quand même vraiment ce discours du salarié qui centre énormément sur lui et qui ne tient plus du tout compte des contraintes du métier qui sont parfois inhérentes à la nature ou à autre chose et qui ne dépendent pas seulement du bon vouloir de l'employeur. Sinon, bien entendu, on ferait tout ce qu'on peut pour nos salariés.
Mais de toute façon, aujourd'hui, le paysage actuel oblige les entreprises à changer leur méthode de recrutement. Alors déjà, on fait beaucoup de aussi choix par défaut, parce qu'aujourd'hui, quand on passe une annonce, on n'a pas trois candidatures sur lesquelles j'hésite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand j'en ai une, c'est déjà beau.
T'es content.
Je prends, ça coche pas toutes les cases. Donc, du coup, de fait, plusieurs mois après, ça génère un problème, parce que comme ça n'a pas coché toutes les cases, voilà. Ça oblige aussi, pour ceux qui sont déjà dans l'entreprise, de s'adapter à tout un tas de turnover qui n'existaient pas forcément avant. Donc, on va s'appuyer sur ceux qui sont depuis longtemps. Ouais. Mais si tu peux me former un tel, maintenant, j'en ai déjà formé deux cette année.
Complètement.
Donc, il y a une espèce d'usure. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on est obligé aussi en tant que manager d'amener des solutions, de faire évoluer des choses qui sont pas forcément du salaire. Moi je vois, je pensais qu'on allait avoir des demandes de salaire de la part de nos intérimaires, des intérimaires, on en a eu clairement, mais c'est pas ça qui fait que ça devient plus attractif que ou qu'on arrive à mieux recruter. C'est vraiment tout un ensemble. Tu parlais, Laetitia, des gardes d'enfants, mais aujourd'hui on a une famille sur deux qui est en mode divorce. Avant, c'est plutôt les mamans qui demandaient la garde d'enfants pour aller chercher à l'école, mais aujourd'hui, on a des qualifiés papas qui ont la garde une semaine sur deux et qui se retrouvent dans les mêmes problématiques de partir à 17h ou 17h30 parce que la crèche est terminée.
Et d'ailleurs, on voit de plus en plus d'entreprises carrément créer des crèches au sein de l'entreprise.
Et oui, mais je sais qu'il y a un peu des projets, il y a deux ou trois projets dans les Hautes-Alpes d'entreprises privées qui vont essayer de se regrouper
pour créer
une solution pour être facilitateur. Donc quand je dis que les entreprises doivent évoluer dans leur façon de faire, ça passe aussi par des sujets comme celui-ci, où on doit travailler aussi là, du coup, collectivement, parce que le tissu d'entreprise des Hautes-Alpes, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui, en solo, soient capables de monter ce type de dispositif. Mais je pense de travailler sur une problématique que tout le monde connaît et sur des problématiques collectives pour trouver des solutions locales un peu en mode laboratoire. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait à la CCI. Je pense que là, on peut trouver des solutions sans attendre forcément un diktat de l'État sur tel ou tel sujet. Il faut faire confiance au chef d'entreprise. Je pense qu'un chef d'entreprise, il est au fait de ces problématiques tous les jours. Il sait que s'il veut poursuivre son modèle économique, il n'a pas le choix que d'évoluer. Mais il faut aussi bien comprendre qu'un salarié, il a aussi des devoirs, des droits et des devoirs.
Oui, il faut que ce soit dans les deux sens.
Il faut qu'il y ait un équilibre qui se passe.
Je pense que c'est aller loin dans un sens et que le balancier est reparti dans l'autre sens. Et là, on est un peu loin dans l'autre sens.
Exactement. Voilà.
Mais moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Eric. J'ai rien à rajouter. On est complètement en phase. Tout ce que tu dis, je le ressens. Je pense qu'on est en plus dans un département où on est en capacité, de par notre taille et de relations humaines qu'on a su tisser pendant des années, on est capable de faire, comme tu dis, un laboratoire, d'expérimenter des solutions. Mais il va bien falloir que les entreprises s'adaptent à cette situation. Parce que si on ne le fait
il faudrait quand même aussi un petit peu que les salariés s'adaptent aussi. Ils ne peuvent pas tout demander tout et leur contraire aussi. Je veux dire. C'est quand même compliqué. Dans certaines branches, c'est quand même compliqué de s'adapter. Je veux dire, quand on parle de saisonnalité, quand on parle de pénibilité, ça a évolué. Mais moi, on est dans le métier de la viande. C'est quand même, à un moment donné, c'est compliqué. Quoi.
Oui, mais on paye aussi 30 ans de 90% de classe d'âge au bac. Les métiers manuels
dévalorisés.
Aujourd'hui, on a des professions manuelles qui gagnent autant qu'un ingénieur aujourd'hui. Parce qu'on sort de l'ingénieur, on fait bac plus 5 et on va gagner 25 000, 30 000 euros annuels. Et ben, un qualifié, aujourd'hui, il est bien au-delà de ces rémunérations-là. Mais on paye aussi tous ces discours politiques qui nous ont été imposés, mais on les paye cash aujourd'hui, quoi, clairement.
Totalement.
Donc Jean-Claude, tu es d'accord donc pour stopper cette réforme, ce que tu disais tout à l'heure.
Étonnamment,
tu es d'accord avec François Ruffin.
Je ne sais pas ce que dit François Ruffin.
Qui c'est?
C'était une blague.
Tu n'es pas le seul chef.
Il faut de la sagesse aujourd'hui. Il faut de la sagesse, il faut de la tendresse pour notre pays presque. Il faut de la tendresse pour des gens. Des gens qui ont quoi? Qui ont traversé, exaspéré, usé, fatigué, 3 ans de crise Covid, de guerre en Ukraine, qui se demandent s'ils vont pouvoir payer leurs factures. Dans ce temps-là, il faut faire attention à la société.
Donc Emmanuel Macron doit quoi faire ?
Il est brutal. Qu'est-ce que ce serait ? Ça serait de dire « je vous ai compris ». Je vous ai compris.
À la De Gaulle.
Oui, je vous ai compris. Je vous ai compris, c'est pas le moment. J'ai compris, c'est 3 Français sur 4 qui veulent pas cette réforme. J'ai compris, c'est 9 salariés sur 10 qui veulent pas cette réforme. J'ai compris, vous savez, de rien de dire ça. Et de dire, voilà, comment on va avoir de la tendresse pour les Français et les Françaises dans ce temps présent.
Voilà. C'est pas pour... C'était Ouin Ruffin qui demande de la tendresse.
Oui, il faut de la tendresse. Parce que. Non, mais moi, ça me fait pas rire. Pourquoi ça me fait pas rire ? Parce qu'aujourd'hui, enfin, à moins que vous soyez, vous, en dehors de ça, moi, je suis peut-être hors sol. Mais moi, quand j'entends, par exemple, hier soir, c'était les chars. En ce moment, on nous bassine sur les chars en Ukraine. Moi, j'ai de plus en plus peur d'une guerre. Alors peut-être que je suis, j'ai la trouille pour rien. Moi j'ai des grands-pères, et sûrement vous aussi, qui ont fait la guerre. Mon père a fait la guerre aussi. Bon, il est allé en Norvège et il m'a raconté sans arrêt ces histoires de guerre. Moi, j'ai peur de la guerre. Parce qu'on sait les conséquences d'une guerre. Et aujourd'hui, franchement, notre pape, il a besoin de tendresse, de sagesse. Et ce message, il faut qu'on le fasse passer massivement. Et moi, je suis d'accord avec Ruffin. Parce que Ruffin, contrairement à d'autres, c'est pas un doctrinaire. Tout à l'heure, je sais pas, tu m'as dit que tu es un doctrinaire. Moi, je suis pas du tout un doctrinaire.
C'est pas Sandrine Rousseau.
Hein ?
C'est pas Sandrine Rousseau.
Voilà, c'est pas du tout ça. Il est pas sur une doctrine bête et méchante. Lui, il est au contact des populations qui souffrent. Donc, il fait remonter ce qu'il ressent. Et pendant des années, j'ai milité dans le mouvement au niveau des saisonniers. Et je sais qu'ils souffrent, les saisonniers. Je sais qu'ils souffrent. Et actuellement, ils souffrent encore plus qu'avant.
Ouais, mais les chefs d'entreprise aussi.
Oui, bien sûr.
On parlait dans l'escalier tout à l'heure avec Bruno des déclarations administratives là, de début d'année, etc. Enfin, je veux dire, c'est dur aussi d'être chef d'entreprise aujourd'hui.
Tout à fait, d'accord.
Il y a un moment donné où tu te demandes, est-ce que je vends ma boîte et finalement, est-ce que je retourne pas salarié quelque part ?
J'ai discuté avant de démarrer l'émission sur le nombre d'entreprises qui doivent être reprises dans le 0,5. On a un taux qui est plus important que la plupart des départements français. On a des chefs d'entreprise qui ont 2 à 3 ans de plus que la moyenne française. Donc ça veut dire qu'on va avoir un vrai problème de sauvegarder nos TPE-PME. Mais je vois mes enfants... j'en ai un qui est en âge éventuellement d'un peu de réfléchir, il a 20 ans et ainsi de suite, mais il a tout fait sauf d'aller faire une formation pour reprendre l'entreprise que j'ai créée il y a 15 ans. Je pense qu'aujourd'hui, alors qu'il y a des vraies possibilités d'évolution, de s'éclater et ainsi de suite, mais on dit que les salariés, ils ont un peu le blues, machin, tout ce qu'on veut, mais les chefs d'entreprise...
Mais tout le monde a le blues. On est par moment au fond du trou. Mais tout le monde
chaque
a le blues.
Chaque jour qui arrive, on n'a pas ce qui arrive, un nouveau décret, un nouveau truc.
Sur la tête.
On en fait de plus en plus parce que l'État en fait de moins en moins.
Complètement.
On doit tout faire la déclaration.
Tout est déclaratif, c'est à nous, on est pour autant responsable de ce qu'on déclare.
On a tout transféré sans aucune contrepartie ou très peu. Voilà, et aujourd'hui, on doit être au fait, alors qu'on soit d'une grande entreprise avec des services informatiques, tout ce que vous voulez, eh ben, ok, mais une TPE, PME, se mettre à l'abri de la cybercriminalité, se mettre, être en règle par rapport à l'URSSAF, être en règle avec tous les décrets qui sortent. Mais qui nous aide ? Le chef d'entreprise doit se démerder du matin au soir, il doit être directeur marketing, directeur financier, directeur juridique.
Complètement d'accord.
Ce que tu as aussi oublié de dire, c'est que, regardez un petit peu les chiffres des défaillances d'entreprises, qui ont quand même flambé, là, sur, bon, c'est les on est sur l'effet post-Covid.
Moins que 2019, mais on est sur une progression logique.
Parce qu'il y avait un peu d'anesthésie.
Et heureusement, parce que le cycle de l'économie, on ne peut pas avoir que des entreprises qui sont en forme. Il faut bien aussi, pour des règles de concurrence et ainsi de suite, que celui qui fait n'importe quoi, au bout d'un moment, il paye ce qu'il est en train de faire aussi quand même.
Et ce que je veux dire aussi, je finis avec ça, c'est que sur les TPE, PME et le petit commerce de localité, avant on lui disait, mais vous savez, vous avez des petites retraites parce que quand vous partez, vous vendez votre entreprise ou vous vendez votre fonds de commerce ou vous vendez votre pas de porte. Aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. Il y a des gens, il y a des petits commerçants du centre-ville ou autre, ils se retrouvent nus et crus. Ils ont que dalle. Voilà. Ouais. Alors, ça a changé aussi.
On entend dans la rue beaucoup les Français se plaindre de la France, de comment elle est gérée, etc. Et tout. J'ai voulu quand même savoir un petit peu où en était nous. En France, au niveau du départ à la retraite, l'âge légal, donc si on va sur la France, aujourd'hui on est à 62 ans. En Allemagne, on part à 67 ans. Alors regardez, la Pologne, c'est 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes. On va aller en Roumanie, 65 ans pour les hommes, 61 ans et 10 mois pour les femmes. En Espagne, On est à 65 ans et 7 mois. Au Portugal, 66 ans et 7 mois. Tiens, en Irlande, bah 66 ans. On n'est pas allé... tiens, en Bulgarie, 64 ans. Malte, 67. On va même en Grèce. Alors, en Grèce, c'est 67 ans. Mais alors là, c'est un régime un peu différent du nôtre. Hein. Donc voilà. Sinon, c'est 62 ans. Et Chypre, on est à 65 ans. Autriche, 65 ans. Les Pays-Bas, 66 ans. Enfin... On est aujourd'hui mais les mieux lotis.
Tu vois, 65 ans, 67 ans, 62 ans.
On est les mieux lotis.
Moi, je vais te dire, moi, je suis parti très tôt à la retraite parce que mon régime faisait qu'il fallait que je parte. Mon patron, il m'a demandé de partir. Je suis parti, mais autrement, je serais resté.
Ouais.
D'ailleurs, une fois que je suis parti...
J'imagine Jean-Claude accroché en disant...
Non,
laissez-moi rentrer.
Une fois que je suis parti, j'ai continué à bosser comme avant, hein.
Oui,
j'étais
oui.
À la retraite, parce que je suis passionné par ce que je fais. Et j'ai 73 ans aujourd'hui, je continue à m'occuper d'une mutuelle et d'assumer toutes les conséquences dont a défini Eric tout à l'heure, parce que si tu veux que je te définisse toutes les obligations que nous avons au niveau de la Banque de France et tout le reste, c'est mais c'est
incroyable.
La seule
différence qu'on a entre nous deux, c'est que moi je joue avec mon argent, et toi tu joues pas avec le tien. C'est la différence. Ouais. Et quand on a mis un capital au départ, et on a hypothéqué sa maison, et ainsi de suite, et qu'il se casse la gueule, on a zéro, pas de chômage.
Et puis c'est notre vie aussi, voilà.
Et on
c'est
repart.
Ça.
Là, c'est une petite différence.
Mais, moi, par contre, il y a une autre petite différence que tu dis pas, c'est que moi, tout le travail que je fais, et quasiment j'y passe mes journées, mais je regrette pas, hein. C'est un choix personnel.
Ouais, mais là, c'est la passion. Hein.
Je suis donc, bénévole.
C'est vrai que tu es un travail bénévole.
Tout à fait bénévole. Et l'autre jour, j'ai été interviewé par la magnifique radio Alpe 1, par la journaliste qui m'a pas fait de cadeau, et on n'est pas là pour qu'elle fasse des cadeaux. Elle te pose des questions, tu as intérêt à connaître ton dossier. Hein, parce que si tu viens la fleur au fusil, tu es balayé au bout de 5 minutes. Mais c'est tout à fait normal. Et donc ça t'oblige quand même à être informé, à étudier tes dossiers, à savoir de quoi tu parles.
On entend tellement, et Laetitia sera d'accord avec moi, on entend tellement de gens dire « Ouais, mais les journalistes, ils sont de connivence, tout ça, machin, etc. » que ça fait du bien d'avoir des journalistes qui font leur boulot pour tout le monde, et que ce soit l'invité.
Bravo Alpe 1, parce que franchement, elle nous passe au crible, mais elle passe tout le monde.
Ah ben oui.
Mais c'est très bien.
Ouais, mais après, parce que je repense un peu, parce que tu parles des journalistes... On baigne dans un truc, alors depuis qu'il y a toutes les chaînes d'infos, tout ce qu'on veut, les applications,
info,
les machins, on est submergé de n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a de positif qui nous arrive toute la journée ?
Rien. Mais
tout sujet est traité du côté négatif.
Évidemment.
Toutes les réussites, on n'en parle jamais.
On parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, c'est ce qu'on dit dans les médias.
Si tu fais un journal des bonnes nouvelles, mais il n'y a personne qui va le regarder.
Oui, mais d'accord.
Ça dépend. Moi, je suis sur Twitter, le média positif qui met des bonnes nouvelles, que je trouve ça très sympa.
Oui,
oui. C'est vrai.
Tu vois, quand tu as présenté ton truc tout à l'heure en disant dans tel pays on part à tel âge et tout, ce qu'il aurait fallu faire, c'est mettre aussi le montant des retraites et par rapport à ce que ça représentait un salaire moyen, tu vois.
Bien sûr,
parce que ça montrerait peut-être qu'en France, on n'est pas si mal loti.
Ouais,
parce que j'aimerais bien connaître.
D'un autre côté, quand tu pars à la retraite avec 900 euros par mois, c'est un peu compliqué aussi, tu peux le reconnaître.
Oui, parler, oui, mais dans l'agriculture, c'est le cas de mon papa qui a commencé à travailler, il avait moins de 18 ans, qui est parti un peu plus tard parce qu'il m'a fait la transmission de l'entreprise, qui a dû partir à 65 ans et qui touche 956 euros de retraite.
Et encore, ils ont eu une petite amélioration. Il n'y a pas si longtemps.
Ça a été un petit peu.
Ça a été un petit peu. Si, il y a eu 100 euros de plus là et tout. Mais le problème des retraites dans l'agriculture, elle est liée un petit peu à la faiblesse de nos cotisations aussi, dans certains cas. Et ça mériterait une réforme fiscale. Ça fait pas plaisir. Je vais me faire pas des copains en disant ça, mais tant pis. Hein, moi, j'ai toujours été à ce qu'on appelle au régime fiscal réel. C'est-à-dire, j'étais comme tout en chacun. Je cotisais en fonction de mes revenus. Il y a un système dans l'agriculture qui est le système fiscal du forfait, qui est trop bas. Et il y a des gens qui ne cotisent pas assez.
Oui, et donc, à l'arrivée...
Et au final, voilà. Parce que c'est ça aussi, c'est que... Et le problème sur les retraites, là où il faut... Il y a peut-être deux vitesses à adopter, c'est sur les vraiment petits salaires. Les gens qui ont peu... C'est compliqué. Je veux dire, et c'est souvent... Ils cumulent, ces gens-là cumulent souvent des fonctions de pénibilité élevées.
C'est comme le cadre qui gagne 5, 6, 10 000 euros par mois, qui lui, quelque part, n'a presque pas besoin du système général.
Et il a fait de la défiscalisation
si
toute sa vie.
Il s'est débrouillé, il a pu investir, il a acheté de l'immobilier, il a placé des actions.
Il est propriétaire de plusieurs appartements et le mec qui a été au SMIC ou
Et le régime général va lui apporter la partie la plus faible de sa retraite par rapport à ce qu'il a mis à côté.
Tu vois, Jean-Claude, qu'on a le cœur à gauche.
Ouais. Et, là, et les 1200 euros, soi-disant, c'est de l'enfumage. Sur la réforme de notre ami Macron.
Pourtant, parce... il y a de l'argent, il y a 150 milliards.
Ouais, non, mais quand il dit que tout le monde va avoir 1200 euros ouais. de retraite, ouais. c'est ceux qui sont en carrière totale, hein, ceux ouais. qui ont cotisé la totalité. Mais, et, mais tous les précaires, les saisonniers dont je parle régulièrement, les plus réactifs, là.
Ouais, mais alors, comment Jean-Claude, ils font ouais. Jean-Claude, si, ils ont aussi choisi. Alors là, ouais. moi, sur les c'est saisonniers, on en a besoin.
On parlait du choix. Hein, on, parle on en a choix. Besoin. On parle du choix de chacun, de tout à chacun, de faire ce genre de métier. Et je vois ce que tu veux dire, Bruno. Effectivement, on force personne à être saisonnier. On sait ce que ça signifie, être saisonnier. Alors, dans ces cas-là, il faut arrêter d'être saisonnier.
Non, il faut améliorer le dispositif. Depuis des années, on le dit. D'abord, il faut arrêter de parler de saisonnier. Il faut parler de pluriactif. Il faut donner à ces personnes la possibilité de mener plusieurs métiers dans l'année. Et, y compris, j'en parlais avec la directrice du Pôle emploi, elle me dit, il peut y avoir des périodes de chômage. Il faut l'accepter. Mais sur 12 mois, si déjà ils travaillent 8 mois, ils sont pluriactifs. Moi, il faut adapter. Mais
c'est, moi, je vais faire des copains. C'est pas ceux-là qui posent problème.
Moi, je vais me faire des copains.
Non, 12 mois, les congés.
Moi, mais, non, mais c'est attends, ça, Eric, je vais me faire des copains. Pas parce que j'en connais là-haut, hein, j'en connais donc qui embauchent des saisonniers. Oui. Bah, pour les garder, c'est compliqué parce qu'eux, ils veulent bosser un certain temps et ensuite partir en vacances ah bah, et oui. revenir oui. faire une
oui,
saison après.
Malheureusement.
Et il y en a pas mal. Hein.
Ça, c'est vrai, mais
je confirme.
Ça diminue malheureusement. C'est non, ce qui non, nous a permis non, de fonctionner non, pendant non. des années. Mais malheureusement, les chiffres font apparaître une baisse de ceux-là, ceux dont tu parles, qui ah font 3 ou 4 mois dans les Alpes et 2 mois à l'été.
Ouais, mais aujourd'hui, on a quand même les entreprises dans département qui travaillait en fond de vallée, ils avaient aussi une certaine, je prends le BTP par exemple, qui avait une certaine saisonnalité, oui. qui matchait plutôt pas mal avec la saison oui. hivernale. Ces entreprises aujourd'hui, elles se sont développées en fond de vallée, elles ont quasiment, alors le climat s'améliorant, entre guillemets, alors je sais pas si il faut dire s'améliorant, mais en tout cas,
ouais,
permet de travailler quasiment 12 mois sur 12, et notamment sur Gap, on travaille aujourd'hui 12 mois sur 12, et bien aujourd'hui, ces entreprises-là sont incapables de recruter des saisonniers, parce qu'on recherche du poste à l'année, et un saisonnier eh bien, il est très bien dans son modèle hiver, été, entre les deux, je suis un peu en stand-by, donc du coup, je ne prends pas les offres des entreprises de la vallée, et on se retrouve en fait, avec une problématique de recrutement. En fait, on pourrait faire basculer, mais en fait, moi, j'ai beaucoup de personnes qui font du saisonnier qui refusent les
sauf que c'est fini,
CDI,
ça.
Quoi. Ils refusent CDI, c'est fini toute la journée chez moi. Oui. Toute la journée.
Tu sais pourquoi ça va se terminer, ça va se tarir, ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils ont modifié le régime d'indemnisation du chômage.
Ça n'a rien à
voir. Oui, ça va. Si, ça a à voir.
Ça va un petit peu bouger les choses.
Si, ça a à voir. Mais ne refuse pas. Regarde les choses.
Vas-y, continue.
Avant, il fallait cotiser 4 mois sur 24 mois. Non, maintenant, il faut cotiser 6 mois sur 24 mois.
Ouais. Donc une saison ne suffit pas.
Et le problème, c'est que la question, c'est est-ce qu'une saison va suffire? Combien il va falloir faire de saison? D'ailleurs, ils sont très inquiets. Y compris les employeurs des remontées mécaniques s'inquiètent
oui,
beaucoup.
Mais ce qu'on oublie aussi de dire, c'est qu'il y a la réembauche automatique du mois de septembre. Un saisonnier qui a fait déjà une saison, il lève le doigt, il est repris.
Dans les remontées mécaniques
uniquement dans les remontées mécaniques. D'accord, mais qui génère aussi. Alors, ok, il n'y a peut-être pas la précarité d'emploi sur les saisonniers et ainsi de suite, on n'est pas traité comme un CDD. Il y a la contrepartie, donc je pense qu'à un moment ou à un autre. On dit l'effort collectif, mais il faut peut-être à un moment ou à un autre qu'on ait tous un peu les mêmes types de contrats, les
mais
mêmes...
Mais combien tu as raison.
Eh ben oui.
Je vais dire, c'est un sujet que je connais bien, puisque ça s'est passé dans l'hiver 98-99, où on a obtenu la modification de l'article 16 de la Convention collective des remontées mécaniques, qui ont mis en place la reconduction automatique des contrats de travail d'une saison sur l'autre. Ça a été une avancée positive. Pourquoi ? Parce que les employeurs, eux, ils ont pu fidéliser leurs salariés, ils les reprenaient d'une année sur l'autre. Sauf que jamais dans les autres branches professionnelles, ils ont accepté de négocier la reconduction des contrats de travail, malgré à l'époque, c'était Al Khomri, vous vous en rappelez, mais
oui.
qui avait fait un travail là-dessus, mais les employeurs n'ont jamais lâché, et notamment hôtels, cafés, restaurants, les HCR ont toujours refusé d'introduire cette mesure, alors qu'ils avaient tout à fait intérêt à le faire, à mon sens.